venir dans un instant.
Caravane éthiopienne avec Daniel, programmée tous les mercredis à 17h, heure Martinique.
À venir dans un instant.
Caravane éthiopienne avec Daniel, programmée tous les mercredis à 17h, heure Martinique.
À venir dans un instant.
Caravane éthiopienne avec Daniel, programmée tous les mercredis à 17h, heure Martinique.
À venir dans un instant.
Caravane éthiopienne avec Daniel, programmée tous les mercredis à 17h, heure Martinique.
À venir dans un instant.
Caravane éthiopienne avec Daniel, programmée tous les mercredis à 17h, heure Martinique.
À venir dans un instant.
Caravane éthiopienne avec Daniel, programmée tous les mercredis à 17h, heure Martinique.
À venir dans un instant.
Caravane éthiopienne avec Daniel, programmée tous les mercredis à 17h, heure Martinique.
Chaque mercredi à 17h, Daniel vous embarque dans la caravane éthiopienne. Découvrez les mystères du livre de l'Apocalypse avec des explications simples, claires, édifiantes et puissantes.
Alors préparez-vous, les places sont limitées dans la caravane. Caravane éthiopienne, c'est tous les mercredis à 17h sur Radio FM Espoir. Vous avez une question sur un verset biblique? Alors appelez-nous au 05 96 52 64 17.
Vous pouvez nous écouter sur www.fmespoir.fr, également sur l'application de Radio FM Espoir et dans le nord de la Martinique sur les 97.3 MHz.
Chaque mercredi à 17h, Daniel vous embarque dans la caravane éthiopienne. Découvrez les mystères du livre de l'Apocalypse avec des explications simples, claires, édifiantes et puissantes.
Alors préparez-vous, les places sont limitées dans la caravane. Caravane éthiopienne, c'est tous les mercredis à 17h sur Radio FM Espoir. Vous avez une question sur un verset biblique? Alors appelez-nous au 05 96 52 64 17.
Vous pouvez nous écouter sur www.fmespoir.fr, également sur l'application de Radio FM Espoir et dans le nord de la Martinique sur les 97.3 MHz.
Voilà, donc bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous, chers amis auditeurs, auditrices. Je viens donc, comme chaque mercredi, vous chercher chez vous pour une merveilleuse balade dans la caravane éthiopienne. Alors, je rappelle, comme vous l'avez entendu, chaque mercredi à 17h, je passe donc vous prendre chez vous pour une merveilleuse balade. J'espère que vous allez bien, chers auditeurs, et que vous êtes prêts surtout. Alors montez, prenez place dans la caravane. Nous allons partir dans un instant pour une balade extraordinaire dans la caravane éthiopienne en ce mercredi, chers auditeurs. Alors nous serons au chapitre 10 de l'Apocalypse. Alors le chapitre 10 n'est pas trop long, donc la balade aujourd'hui ne sera pas longue, chers auditeurs. La balade va durer le temps du chapitre 10. Et nous allons quand même être ensemble et c'est agréable. Tout le monde est prêt? Tout le monde est confortablement installé. On attend que vous soyez bien installé. Prenez votre Bible quand même. Nous serons au chapitre 10 du livre de l'Apocalypse.
Daniel vient vous chercher tous les mercredis à 17h dans la caravane éthiopienne pour une balade édifiante. Lors de cette balade, il nous explique des passages de la Bible difficiles à comprendre, notamment dans le livre de l'Apocalypse. Alors préparez-vous, le nombre de places est limité dans la caravane. Caravane éthiopienne, c'est sur FM Espoir. S'il y a des versets que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas. Appelez-nous au 0596 52 64 17. Vous pouvez nous écouter sur notre site www.fmespoir.fr ou avec notre application. Dans le nord de la Martinique, vous pouvez aussi nous écouter sur la bande FM 97.3 MHz.
Voilà, ça y est, on va pouvoir commencer, chers auditeurs, puisque tout le monde est installé. Nous sommes partis donc pour une balade qui ne sera pas longue en cet après-midi, puisque le verset que nous méditons, le verset sur lequel nous méditerons, n'est pas un verset trop long. Amen. C'est le chapitre 10, chers auditeurs. Par la grâce de Dieu, nous allons commencer sans plus tarder, chers auditeurs. On va lire le passage, on va lire le chapitre. Alors lisons ce chapitre 10, chers auditeurs, je l'ai sous la main, je le lis pour vous. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres furent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne les écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Verset 10. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Alors, comme vous le voyez, bien-aimés, ce passage, ce chapitre 10, n'est pas trop long. Il n'y a en réalité que 11 versets. 11 versets. Chapitre 10, il n'y a que 11 versets. Donc notre balade ne sera pas en principe pas longue aujourd'hui. Alors, où s'est placé ce chapitre 10? La sixième trompette a sonné. La septième n'a pas encore sonné. Le chapitre 10 que nous avons lu est intercalé entre la sixième trompette et la septième trompette. La septième trompette, c'est la dernière trompette qui va sonner. Donc les choses seront bouclées et des choses graves vont arriver. Donc on a l'impression que Dieu accorde une pause. Une pause à l'humanité. On a l'impression que le roi des rois accorde une pause. Une pause à l'humanité. Le chapitre 10, par conséquent, chers amis auditeurs auditrices, est donc une pause. Un chapitre qui se trouve entre la sixième trompette et la septième. Mais dans ce chapitre, il se passe des choses. Alors regardez ce qui se passe. Au verset 1. J'en vois. Il est en esprit et il voit un autre ange. Il faut dire que Jean a vu pas mal d'anges. Mais chaque ange a une particularité. Chaque ange a une mission. Chaque ange est une symbolique. Chaque ange a une puissance particulière. Cet ange qu'il voit maintenant, il dit que je vis un autre ange. Cet ange est puissant. Il descend du ciel. Il est enveloppé par une nuée. La nuée du ciel. Au-dessus de sa tête, il y a l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Alors, cet ange bien-aimé, d'après l'apparence qu'il a, d'après la manière que l'apôtre Jean le voit, cet ange nous rappelle quelqu'un. On ne peut pas dire que c'est exactement ça, mais quand on prend la Bible, cet ange nous rappelle la manifestation de la gloire de Jésus. On a l'impression que cet ange est une représentation du Fils de Dieu. De par sa présentation, de par ce qu'il y a autour de lui, on a l'impression que cet ange représente la manifestation de la gloire de Dieu. Alors regardez comment il est. Il est enveloppé de la nuée. La nuée donc l'enveloppe. Ça nous rappelle quelque chose. Et je vais vous le montrer tout à l'heure. Au-dessus de sa tête, il y a l'arc-en-ciel. Là encore, ça nous rappelle. La nuée, ça nous rappelle la puissance. Rappelez-vous que la nuée accompagnait Israël. La nuée est symbolise ici la présence de Dieu. La nuée symbolise ici également la puissance de Dieu. Amen. Oh mon Dieu, j'ai des choses à vous dire. Bien-aimés, chers auditeurs, chers amis, je vous ai dit que cet ange que j'en vois, il y a une particularité. Cet ange est enveloppé de la nuée. Quand on voit dans la Bible la nuée, c'est la présence de Dieu. La nuée symbolise la présence de Dieu. Rappelez-vous, chers auditeurs, lorsque Israël est sorti d'Égypte, la nuée les accompagnait. sur le mont Sinaï, la nuée était présente sous la montagne. Dans le tabernacle, lorsque la gloire de Dieu remplit le tabernacle, la nuée était encore là. Lorsque on dédicaçait le temple de Salomon, la nuée était encore là. Toujours la présence de Dieu. À la transfiguration de Jésus, bien aimé, il y a eu une nuée lumineuse qui couvre les disciples. La nuée, bien aimé, ici est donc souvent le signe de la présence de Dieu, le signe de la majesté de Dieu, son mystère. Donc cet ange n'est pas un ange ordinaire. Je crois que nous sommes dans une métaphore ici et que cet ange que j'envoie là est une représentation de Jésus-Christ, de la gloire de Jésus-Christ. Parce que il est dit ici, il est enveloppé, il est attaché, il est habillé. Un ange ordinaire n'est pas enveloppé de nuées. Amen. Mais là, on voit que la présence de Dieu est tellement forte sur cet ange. C'est comme s'il est habillé par la présence de Dieu. C'est vraiment une représentation de Jésus-Christ. Et bien aimé, et il y a quand même des versets qui attestent cela. Vous lirez dans Exode 12, verset 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée et pour les guider sur le chemin. L'Éternel était devant eux sous la forme d'une nuée. Et aussi, bien aimé, sur le mont Sinaï, la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Exode chapitre 24, verset 16. La nuée remplit le tabernacle dans Exode 40, verset 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. La nuée remplit encore le temple dans 2 Chroniques 5, verset 13 à 14. La maison fut remplie d'une nuée. Donc la nuée symbolise la présence de Dieu. Dieu est dans la nuée et la nuée habille cet ange. Ça ne peut pas être un ange ordinaire, cher auditeur. Ça ne peut pas être un ange ordinaire. Mais c'est pas tout. Non seulement cet ange est habillé par la nuée, cet ange que j'envoie, mais il est dit encore ici, au verset 1 toujours, et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Alléluia. Bien-aimé, ici, l'arc-en-ciel nous rappelle eh bien la promesse de Dieu. L'arc-en-ciel, bien-aimé, nous rappelle, rappelez-vous, Noé, quand Dieu a fait alliance avec Noé. La Bible dit que Dieu dit que j'ai placé mon arc-en-ciel dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Elle dit que l'arc-en-ciel sur la tête de l'ange symbolise l'alliance qui est passée avec Dieu. Il y a non seulement une alliance avec Dieu, mais il y a une promesse. Chaque fois que Dieu voit l'arc-en-ciel, eh bien, Dieu se rappelle de sa bonté. Dieu se rappelle de sa fidélité. Et l'arc-en-ciel, bien-aimé, apparaît plusieurs fois dans la Bible, dans Ézéchiel et dans Genèse à de multiples reprises. On voit l'arc-en-ciel qui apparaît. L'arc-en-ciel, c'est le symbole de la promesse de Dieu. L'arc-en-ciel, c'est la promesse, bien-aimé, que Dieu va se souvenir de sa grâce envers l'humanité. Et là, cet ange que j'envoie, il est dit que sur sa tête était l'arc-en-ciel. Amen. Donc, dans cet ange, sur sa tête, dans sa vie, bien-aimé, il y a la promesse de Dieu. Dieu se rappelle de sa promesse envers l'humanité, qui ne détruirait plus la terre Il se rappelle de cette promesse. C'est pour ça que ce chapitre 10 se situe entre la sixième et la septième trompette. On a l'impression que là, Dieu va mettre tout en stand-by. Au chapitre 10, Dieu met tout en stand-by. On a l'impression qu'il accorde un répit à l'humanité. Parce que la septième trompette va sonner. Et ça va être sans retour. Il n'y aura pas de possibilité de retour en arrière. C'est comme si Dieu, au chapitre 10, il retient sa main. Il retient sa main parce que la présence de l'ange avec l'arc-en-ciel lui rappelle la grâce. Lui rappelle sa promesse envers l'humanité. Donc, il va attendre avant de donner l'ordre au septième ange de sonner la septième trompette parce que ça va être irréversible. Une fois que la sixième trompette va sonner, ça va être irréversible. Donc, le chapitre 10 est une pause. Une pause pour que les hommes réfléchissent. Une pause pour que les hommes prennent conscience avant qu'il ne soit trop tard. Parce que la sixième trompette va sonner. Ensuite, on voit encore l'ange. Il est comment encore? Il a son visage était comme le soleil. Amen. Là encore, le soleil nous rappelle le Fils de Dieu. Là encore, le soleil nous rappelle la manifestation du Fils de Dieu. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen, quelqu'un peut dire Amen, quelqu'un peut dire Amen. Parce que ce visage de soleil, on le trouve dans le chapitre 1 d'Apocalypse. Et on voit une personne qui était comme ça. Il est dit au chapitre 1 d'Apocalypse, au verset 15, « Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il était embrasé par la fournaise, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. » Amen. Ici, bien-aimé, cet ange qui est dans le chapitre 10 que nous avons lu à l'instant, et qui a le visage comme le soleil, vraiment, c'est la symbolique. C'est une représentation de Jésus-Christ en personne qui à lui seul est symbole de soleil, qui à lui seul est symbole de promesse, l'arc-en-ciel, qui à lui seul est symbole de la présence de Dieu, les nuées. Dans un seul ange, il y a tous ces aspects-là. La nuée, la présence de Dieu, l'arc-en-ciel, les promesses de Dieu, et le soleil, Dieu est notre lumière, la lumière du monde. Amen. Le soleil est là pour éclairer. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Les colonnes, ça nous rappelle la stabilité. Quelqu'un dit Amen, s'il vous plaît. Les colonnes nous rappellent donc la stabilité, la fermeté. Des colonnes de feu. Quand un bâtiment a des colonnes, ça nous rappelle la stabilité. Donc, ce qui va se passer là est basé sur de la stabilité. Il y a une bonne fondation. Oh mon Dieu! Alléluia! Mais parole de Dieu, c'est basique. Hein? Bah, la stable. Bah, la fondée. Bah, la sûre. Le monde, les politiques ont des paroles. Les hommes ont des paroles, mais rien n'est stable. Nous avons des présidents qui vous disent quelque chose aujourd'hui et qui vous disent autre chose demain. Regardez le président Donald Trump. Des déclarations à tire la papette. Les hommes disent ça aujourd'hui pendant la campagne électorale. Après, ils vous disent autre chose. Demain, ils vous disent autre chose. Il n'y a pas de stabilité dans leurs paroles, dans leurs décisions. Mais cet ange nous montre que la parole est stable. Ces pièces comme des colonnes. Ça veut dire que cet ange est debout sur deux colonnes de feu. La colonne symbolise la stabilité, mon ami. Amen. Nous sommes maintenant au verset 2. Aïe, 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 le verset 2. Il est dit, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Et il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Dans la Bible, on voit plusieurs livres. Et on voit le livre de vie, n'est-ce pas? Il y a plusieurs types de livres dans la Bible. Là n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais il y a un livre qui est scellé de sept sceaux. Mais ce petit livre-là n'est pas scellé. Amen. Donc, ce petit livre-là, Jean peut le lire. Il est déjà ouvert. Il n'y a pas de sceau à briser. Il y a des choses, bien-aimées, qui sont cachées. Et d'autres choses qui ne leur sont pas cachées. Il y a des choses que Dieu a révélées. D'autres choses qu'il garde encore scellées pour d'autres époques. Mais à l'instant où j'envoie l'ange ici, rien de caché. Le livre est ouvert. Rien de caché. Ce que ça veut dire, bien-aimé, qu'il y a des choses pour l'instant qui nous sont accessibles. Des choses qui nous sont accessibles. Et d'autres, bien-aimés, qui ne le sont pas. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps donc pour chaque révélation. Oh, quelqu'un dit amen, s'il vous plaît. Mais là, pour l'instant, Jean voit un petit livre qui n'est pas scellé et qui n'est pas fermé, mais qui est ouvert. Il était, verset 2, il était dans sa main, il tenait dans sa main, dans la main de l'ange, un petit livre ouvert. Il posa sur son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Cela symbolise, bien aimé, eh bien, la domination. Cet ange domine sur la terre, sur la mer, autrement dit sur le monde entier. Ça ne peut pas être un ange ordinaire. Ça ne peut être que la manifestation de la gloire de Dieu. Verset 3. Et il cria d'une voix forte comme rugit le lion. Quand il cria, les sept tonnerres furent entendre leur voix. Amen. Et il cria, l'ange criait comme un lion. Vous savez, bien-aimé, lorsque le lion rugit, le rugissement du lion n'est pas anodin. Le lion ne rugit pas pour rugir, pour faire peur. Le but du lion en rugissant, oh, cher auditeur, ce n'est pas de faire peur. Le but que le lion se fixe en rugissant, c'est pour marquer son territoire. En fait, le lion, quand il rugit, il marque son territoire. Donc, quand l'ange rugit, c'est qu'il marque son territoire. Autrement dit, le monde lui appartient. La terre lui appartient. Ça ne peut être que la manifestation de la gloire de Dieu. Cet ange ne peut pas être un ange ordinaire. Parce que la terre n'appartient pas à un ange. Parce que la mer n'appartient pas à un ange. Non seulement ses pieds sont posés sur la terre et sur la mer, mais il rugit comme un lion. C'est-à-dire que partout on entend le rugissement du lion. En Guyane française, quand les lions rougissent, ou dans des pays d'Afrique, quand les lions rougissent, partout où les autres animaux entendent le rugissement du lion, ils savent qu'ils sont sur le territoire du lion. Et ce rugissement de l'ange là, par où toute la terre, ça veut dire que la terre entière lui appartient. La terre n'est pas à l'homme. Nous avons des titres de propriété, nous qu'a dit Martinique, c'est à nous. Martinique, pas tao. C'est à bon Dieu. Verset 4. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit les sept tonnerres et ne les écris pas. Mais ici, j'ai entendu des choses, mais il lui a été interdit de l'écrire et de le répéter. Donc, ce que veut dire que j'ai entendu des choses qui ne nous a pas dit et ça n'a pas été écrit, mais ça a été scellé. Amen, mes amis. Donc, ce qui m'amène à vous dire, mes amis, qu'il y a des choses qui nous seront révélées ultérieurement. Amen. Il y a des choses qui nous seront révélées ultérieurement. L'apôtre Jean n'a pas tout dit dans l'Apocalypse. Il y a des choses que nous saurons par révélation. Amen. Il y a des choses que nous saurons, chers auditeurs, par révélation. Le temps de révélation n'est pas terminé. Le temps où Dieu se révèle n'est pas terminé. Il y a encore des choses que Dieu va te révéler. Et pour cela, bien-aimé, il faut que tu apprennes à entrer en communion avec eux. Les sept tonnerres ici symbolisent la voix de Dieu. Généralement, bien-aimé, quand les tonnerres parlent dans le livre de l'Apocalypse, c'est Dieu qui parle. Et le chiffre 7 étant un chiffre divin, un chiffre de la plénitude. Donc, Dieu a dit des choses à Jean. Les sept tonnerres qui sonnent, qui retentissent, qui parlent, c'est Dieu qui parle. Et Dieu a dit des choses à Jean que Jean n'a pas écrit, mais que Jean a scellé. Amen, mes amis. Et le temps viendra où certaines paroles qui n'ont pas été écrites dans ce livre vont être révélées. Alléluia. Quelqu'un dit amen, s'il vous plaît. Verset 5. Tout le monde comprend? Verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qui n'aurait plus de temps. Cet ange-là va lever la main droite. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Va lever la main droite et va jurer sous le nom de Dieu. Va jurer qu'il n'y aura plus de temps. Attention, la septième trompette va sonner. C'est ce qu'il veut dire par là. Parce que la septième trompette n'a pas encore sonné, mais ça va sonner. Et qu'il n'y aura plus de temps. Le chapitre 11 que nous sommes, 10 que nous sommes en train de méditer, là, bien-aimé, est un chapitre sursis, est un chapitre clémence, est un chapitre trait d'union avant que la septième trompette sonne. Mais après ça, il n'y aura plus de temps. Nous sommes dans un temps de repentance, un temps où tu peux te convertir, un temps où tu peux, comment dirais-je, mais après, bien-aimé, il y a un moment, il n'y aura plus de temps. Amen, bien-aimé. Les choses seront clôturées. Les choses seront scellées. Bien-aimé, faites vite. Convertissez-vous. Faites vite. Sanctifiez-vous. Faites vite. Purifiez-vous. Faites vite. Retrouvez le chemin de la prière. Faites vite. Retrouvez le chemin de la lecture de la parole de Dieu. Parce qu'au moment, il n'y aura plus de temps. Amen. Verset 7. Verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que, verset 8, et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Maintenant, Jean reçoit un ordre. Va, prends le livre. Rappelez-vous que le premier livre scellé qu'il avait vu dans la main de Dieu, personne ne pouvait prendre le livre. Mais là, il y a des choses qui sont accessibles à Jean. Il faut que nous comprenions, bien-aimés, qu'il y a des choses qui nous sont accessibles, des choses puissantes qui nous sont accessibles, des choses terribles qui nous sont accessibles, mais il y a d'autres choses qui ne le sont pas. Et ça, il y a ce qui est à Dieu et ce qui est à l'homme. Il y a des choses auxquelles l'homme a accès et d'autres choses auxquelles l'homme n'a pas accès.
Parfois, nous les accéder à des choses qui partent à nous. Par exemple, bien-aimé, il y a des gens qui vont chercher chez les sorciers pour savoir ce qui va arriver demain. Si Dieu voulait que tu saches ce qui doit arriver demain, il te l'aurait dit. Il faut pas chercher à savoir ce qui ne nous est pas accessible. Rappelez-vous, je le redis encore, chers auditeurs, que dans les premiers chapitres du livre de l'Apocalypse, Jean va arriver au ciel. Et il verra de la main de Dieu un livre scellé de 7 sceaux. Personne n'avait accès à ce livre. Et Jean a pleuré beaucoup. Mais ici, on voit un livre de la main d'un ange. Et ce livre n'est pas scellé. Ce livre n'est pas fermé, mais il est accessible. Et on dit à Jean, va prendre le livre. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu veut te donner, auxquelles tu as accès. Parfois, bien-aimé, nous voulons avoir accès à des choses qui nous sont interdites, alors qu'il y a des choses qui nous sont autorisées, et on ne veut pas avoir accès à ces choses-là. Mon ami, ce matin, cet après-midi, mon ami, nous sommes dans la caravane éthiopienne. Ne te prive pas de ce que Dieu veut te donner. Tu as accès à de grandes choses. Tu as accès à de grandes, grandes choses. Ce livre, Jean y avait accès. Dans ce livre, il y avait pas mal de choses pour la nation, pour le monde, pour les hommes, pour l'humanité. Et Jean pouvait avoir accès à ce livre. On lui dit, va prendre le livre. Et au verset 9, on voit que Jean va aller prendre ce livre. Jean va aller prendre ce livre. Quelqu'un dit, Jean va aller prendre ce livre. Verset 9. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me le dit. Et il me le donna. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Alléluia. Il faut que je m'arrête un instant ici. Jean va prendre le livre et l'ange va lui donner un avertissement. Il sera doux dans ta bouche, mais il sera amer dans tes entrailles. Oh, bien-aimé, parler de Dieu, c'est agréable. C'est une parole qui est douce. Ça fait bien de dire Dieu ci, Dieu ça. C'est beau dans la bouche, c'est doux dans la bouche. Mais lorsque tu commences à vivre, autrement dit, à te nourrir de la parole de Dieu, ça commence déjà à être plus amer. Parce que les choses qui vont arriver, Dieu n'est pas content. Amen. Quand Jean a la parole dans sa bouche, c'est doux. Amen. Mais en réalité, quand il va absorber la parole de Dieu, quand il va savourer la parole de Dieu, ça va être amer dans ses entrailles. Parce qu'en réalité, prophétiser, c'est bien. Avoir des paroles, Dieu a dit, Dieu a fait, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, c'est agréable à la bouche. C'est toujours agréable à la bouche. Mais quand il faut se nourrir de la parole, on se rend compte que la parole engendre une certaine espèce de tristesse parce que Dieu n'est pas content. Une espèce d'amertume parce que Dieu n'est pas content. L'état de l'humanité n'honore pas Dieu. L'état de l'église n'honore pas Dieu. Les paroles sont belles dans la bouche. Les prophéties sont belles le dimanche matin parce que ça reste dans la bouche. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur, le cœur c'est déjà à l'intérieur, est éloigné de moi. Parce que tout est beau, tout est bien dans la bouche. Mais qu'y a-t-il dans le cœur vraiment? Et quand la parole est absorbée, on se rend compte que dans notre vie, il n'y a rien d'agréable. Il n'y a qu'amertume. Il n'y a que tristesse en nous. Bien-aimés. Parce que la parole, lorsqu'elle est absorbée, va révéler notre état intérieur. C'est pour ça qu'on parle d'amertume. L'ange dit à Jean, cette parole sera amère au fond de toi. Parce que la parole va révéler notre état intérieur. Et on va se rendre compte que c'est pas agréable. La parole est comme une lumière. Quand tu fais corps avec la parole, quand tu vas plus loin qu'écouter la parole, quand tu dépasses le stade de seulement de la bouche, de la langue, mais que tu te nourris de la parole rentre dans tes entrailles et va éclairer, parce que la parole est comme une lumière sur ton sentier. La parole va éclairer ton intérieur et tu verras que ce qui s'y trouve n'est pas si agréable que ça. Je le dis pour vous et pour moi, chers auditeurs. Ça, c'est bien sûr, bien entendu, ça, c'est bien sûr la caravane éthiopienne, chers auditeurs.
Chaque mercredi à 17h, Daniel vous embarque dans la caravane éthiopienne. Découvrez les mystères du livre de l'Apocalypse avec des explications simples, claires, édifiantes et puissantes.
Alors préparez-vous, les places sont limitées dans la caravane. Caravane éthiopienne, c'est tous les mercredis à 17h sur Radio FM Espoir. Vous avez une question sur un verset biblique? Alors appelez-nous au 05 96 52 64 17.
Vous pouvez nous écouter sur www.fmespoir.fr, également sur l'application de Radio FM Espoir et dans le nord de la Martinique sur les 97.3 MHz.
Nous sommes au verset 10, chers auditeurs. Je pris le petit livre. Donc Jean va prendre le petit livre dans la main de l'ange. Et je l'avalai. Il a mangé le livre. Il fut dans ma bouche doux, comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Comme l'ange lui avait dit, ça a été doux dans sa bouche, mais amer au fond. Verset 11. Le dernier verset. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Ce que l'ange dit à Jean ici est très révélateur. Parce que n'oubliez pas que Jean est exilé sous l'île de Patmos. Pour les hommes, c'est fini pour Jean. Pour les hommes, c'est terminé. Pour les hommes, c'est la fin de l'apôtre Jean. C'est de l'histoire ancienne. Mais l'ange lui dit, pour Dieu, c'est pas fini pour toi. Tu as encore beaucoup de choses à faire. Tu dois encore prophétiser sur beaucoup de nations, sur des peuples, sur des langues. Ta situation actuelle n'est pas ta fin. Aïe, 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 aïe. Peut-être que l'homme pense que c'est fini pour toi. Peut-être que l'homme a décrété que pour toi c'est fini. Tu fais partie du passé. Où c'est un grand monde. Laisse la place aux jeunes. Mais l'ange lui dit que c'est pas fini pour toi. Tu as encore beaucoup de choses à faire pour la gloire de Dieu. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Tu crois que c'est fini pour toi. Les hommes disent que c'est fini pour toi. Mais non, mon ami, c'est pas fini pour toi. C'est pas fini pour toi. Amen. Quelqu'un dit avec moi, c'est pas fini pour moi. L'ange dit à Jean, ils t'ont envoyé sur l'île de Patmos pour finir avec toi, pour bloquer ton ministère, pour te détruire, pour t'éradiquer. Mais moi, je te dis que c'est pas fini pour toi. Tu dois encore prophétiser sur beaucoup de peuples, de nations et de langues et de rois. Cher auditeur, cette parole adressée à l'ange, cette parole adressée à Jean par l'ange est pour toi aussi. Les hommes t'ont classé. Les hommes pensent que c'est fini pour toi. Tu es trop vieux. Tu es trop vieille. Tu n'es pas à la mode. Faut laisser la place aux jeunes. C'est la grande philosophie de notre époque. Mais il n'y a pas de vieux pour Dieu. Il n'y a pas de vieille pour Dieu. Ton temps n'est pas fini. La promesse est pour toi aussi. Ton époque n'est pas finie. Même si l'homme t'a exilé à Patmos, même si l'homme t'a exilé de ton âge, même si on trouve que tu es vieux jeu, c'est pas fini pour toi. Ça ne fait que commencer. Dieu vous bénisse.
Ça y est, nous sommes arrivés à la fin de notre balade théologique dans la caravane éthiopienne.
Nous espérons que ce moment a été utile pour votre édification. Toute l'équipe de Radio FM Espoir se joint à moi pour vous souhaiter une bonne fin de soirée à l'écoute de nos programmes.
Alors, à mercredi prochain pour une nouvelle balade dans la caravane éthiopienne. Daniel viendra vous chercher chez vous à la même heure, c'est-à-dire 17h, heure Martinique.
Nous vous ramenons comme convenu chez vous et vous disons à très bientôt. N'oubliez pas de partager ce moment avec vos parents, amis ou frères et sœurs en Christ. Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 05 96 52 64 17.